Décryptualité. Le podcast qui décrypte l'actualité des libertés numériques. Semaine 49, salut Manu.
Salut Luc.
Eh bien, que nous as-tu mis dans le sommaire ?
Alors, on a 6 articles principaux.
Silicon Open Source, des développeurs toujours plus impliqués, un article d'Ariane Becky.
Donc qui parle des développeurs, les informaticiens, qui s'intéressent toujours de plus en plus aux logiciels libres. Ils en font et ils veulent en faire. Donc il y a des études qui sont faites là-dessus, qui font des évaluations de toute cette demande.
La Dépêche, Montflanquin, succès pour l'install party de logiciels libres, un article de Marie-Paul Rabez.
Donc ça parle d'une association locale, AGNUX, qui ont organisé une install party. Ça fait toujours plaisir à voir.
Tom's Guide, le FBI accuse un hacker d'avoir transmis à la Corée du Nord des informations open source. Un article de Guillaume Pijard.
C'est un développeur américain qui s'est déplacé en Corée du Nord. Déjà, en soi, c'est compliqué. Donc, les institutions d'Amérique lui ont recommandé de ne pas y aller. Et il voulait les former sur le Bitcoin, leur donner des connaissances sur le sujet. Sachant que la Corée du Nord, ils ont des gens très compétents qui sont très au courant de la technologie Bitcoin. Mais en gros, il est accusé de leur avoir aidé à contourner les blocages commerciaux que la Corée du Nord subit depuis des années et des années. Et donc le gars, il est en prison.
Sale traître.
Il y a de ça.
Rude baguette, étrange manipulation autour du nom de domaine .org, un article de la rédaction.
C'est un sujet dont on parle depuis 2 semaines, qui m'énerve bien. C'est qu'en gros, l'extension .org a été vendue à une entreprise, que les limites de prix ont été enlevées et ça sent la connerie.
Donc on a une pétition en cours, allez sur april.org si vous souhaitez la signer. Le Monde.fr, Gaël Duval, l'adepte de Linux qui veut libérer les smartphones, un article de Bastien Lyon.
Donc il a un article pour lui, c'est sympa, c'est un des fondateurs de Mandrake Mandriva, une ancienne distribution GNU Linux relativement connue. Et maintenant il fait de la distribution pour téléphone portable, donc un ordinateur de poche, et sa distribution elle s'appelle i. Alors, slash i, slash, je ne sais pas comment on prononce.
Slash e, slash.
Oui, en i, français, ah non, c'est vrai, voilà. C'est vrai, slash e, slash. Et donc, il y a la i Foundation, et il met en avant tout un écosystème basé sur Android, qui est du logiciel libre, donc c'est plutôt intéressant.
Next Impact, obsolescence programmée, le point sur les mesures votées en commission à l'Assemblée, un article de Xavier Bern.
Donc, l'obsolescence programmée, c'est le fait d'avoir des produits qu'on achète qui vont être programmés pour se casser ou ne plus être utilisable au bout d'un certain temps. C'est fait volontairement et c'est très mauvais pour la planète, c'est très mauvais pour le monde entier parce que on va avoir des décharges remplies de produits qui auraient pu être utilisés un peu plus longtemps et c'est en train d'être discuté dans les institutions françaises. Plutôt bien, et l'April participe aux discussions.
Le sujet du jour, c'est quoi ?
Alors, un sujet super difficile, super pointu, hyper complexe.
Les robots tueurs.
Waouh ! Alors, ça sent le putaclic, mais ça n'empêche, voilà. C'est un sujet qui nous intéresse.
C'est un terme qui effectivement fait peur et qui ratisse large, mais qui est couramment utilisé.
Oui, donc, voilà. Notamment parce qu'il fait peur et qu'il ratisse large, et qu'assez rapidement, on comprend ce qu'est un robot tueur.
Pour moi, c'est pas si évident que ça.
Ah, alors, est-ce que c'est pas alors Terminator, robot tueur
Si tu prends un robot, par exemple, tu vas dans une usine de bagnole, il y a des robots qui soudent des voitures. Donc, ce sont des machines à qui on a lancé des instructions pour effectuer une tâche répétitive, etc. etc.
Et qu'on appelle des robots, oui, tout à fait.
D'accord, donc ça fait des décennies qu'on a des machines qui sont des automates. Par exemple, un missile de croisière, c'est un truc qui coûte une fortune, à peu près 1 million.
On accroche, à l'unité.
Qu'on accroche sous un avion sur un bateau, qu'on envoie, qui a un radar, qui a plein d'informatique embarquée, qui est capable de reconnaître le terrain à partir d'une carte qu'il a, qui est capable de mettre en place des stratégies spéciales pour s'approcher sans qu'on sache quelle est sa cible exacte en fonction des radars et des trucs comme ça.
Pour éviter les contre-mesures.
Effectivement, il a tout plein d'intelligence à bord et à la fin, il va exploser, donc faire la tâche qu'on lui a désignée, exactement comme un robot dans une usine de bagnole va faire la tâche qu'on lui a dit de faire.
Mais généralement, les missiles de croisière ne sont pas considérés comme des robots tueurs, pas dans les définitions qui sont mises en avant.
Et c'est pour ça que la notion de robot tueur, elle n'est pas si facile que ça.
Alors, en fait, on parle de ce sujet parce qu'il y a des associations qui essayent de mettre en place des traités internationaux. Alors, ce n'est pas là, dans l'actualité récente, ça a déjà 1 an ou 2. Amnesty International et Human Rights Watch qui ont essayé de mettre en avant un traité qui interdirait les robots tueurs. Et les robots tueurs, dans leur définition, c'est des machines autonomes qui sont capables de prendre la vie d'êtres humains sans l'intervention d'un autre être humain dans la chaîne de décision.
Oui, mais ça existe depuis le 19e siècle, ça s'appelle une mine. Quand tu poses une mine et qu'un malheureux, tu sais pas qui c'est, marche dessus, ça lui pète à la gueule, il meurt et tu as un système extrêmement simple, pas intelligent du tout, qui est de façon autonome, se déclenche dans certaines conditions.
Mais c'est là qu'il y a le terme robot qui intervient, c'est une invention du milieu du 20e siècle, qui implique une certaine complexité et une forme d'intelligence. Et en ce moment, avec toutes les discussions sur l'intelligence artificielle, on peut voir que les prises de décision, la manière de reconnaître la cible, de déterminer que oui ou non, on doit déclencher le tir, tout ça, ça peut s'automatiser. Et ben, on le voit par exemple avec une voiture. Les voitures, c'est un vieux concept. La voiture autonome, c'est un robot. Et c'est un robot qui peut devenir un robot tueur d'ailleurs, parce que bah, c'est arrivé que des voitures autonomes ont déclenché des accidents qui ont résulté dans la mort d'êtres humains.
Oui, elle peut se planter, hein, comme un conducteur peut se planter, avec ce cas un peu particulier dont on aime bien parler, qui est les faux positifs, et qui fait que souvent, et sur les cas de voitures autonomes ou d'accidents qu'il y a eu...
Oui, il y a eu un cas avec Uber. Hein.
Notamment un cas avec Uber, mais il y avait eu aussi une voiture, une Tesla, qui s'était emplafonnée dans un semi-remorque qui était en travers de la route. Il y a cette difficulté à accepter l'accident, parce qu'il n'a aucun sens. Parce que les machines, les intelligences artificielles, les robots n'ont pas de bon sens. Et donc cette difficulté de compréhension qu'on peut avoir, mais qui potentiellement pose pas de problème à la guerre. Parce que la guerre, si c'est vraiment un milieu où il n'y a pas de sens, qui est complètement absurde et complètement chaotique, c'est bien la guerre, quoi.
Sans oublier que là, une voiture autonome, un de ses objectifs, c'est souvent de protéger la vie. Alors qu'un robot tueur de guerre, un de ses objectifs, ce serait au contraire d'enlever la vie. En tout cas, on peut l'imaginer comme ça.
Alors, pas à tout le monde, parce que normalement, une arme, sa première qualité, c'est d'être sûre et d'éviter de tuer les gens qui la manipulent. Donc ça, c'est un point important. Et c'est souvent aussi une source de fantasmes. Fantasmes qui sont notamment portés par des gens qui ont vachement de réputation. Hein. Il y a quelques années, il y avait des gens dont Elon Musk, je crois, Bill Gates, qui avaient signé des trucs en disant « Attention, les intelligences artificielles... »
C'est le plus grand danger à laquelle l'humanité doit faire face.
Exactement. Donc, c'est complètement délirant avec cette idée que... ça va devenir un Terminator et que les robots vont se retourner contre nous, etc.
Alors, peut-être pas d'une manière aussi caricaturale, mais en gros, c'était ça. Hein.
Il y a plein d'experts en intelligence artificielle qui ont dit tout ça, c'est vraiment des conneries.
Sachant que l'intelligence artificielle, donc encore une fois, c'est des statistiques et pas grand-chose d'autre que des statistiques. Donc, on dit intelligence, mais c'est un raccourci.
Mais voilà, mais les militaires, voilà, dans un contexte de guerre où déjà, il y a très peu de témoins, c'est très difficile d'établir qui a lancé le missile. Dans un truc où la vie vaut pas très cher, hein, surtout si c'est des civils, on s'en fout un peu.
Et puis les victimes, on va pas forcément reconnaître qui c'était une fois que la bombe est explosée.
Ils sont plus en état de se plaindre. Je pense qu'un militaire peut tout à fait s'accoutumer d'un système pas très fiable qui, de temps en temps, va tuer des civils.
Oups.
Voilà, ce qui arrive avec les soldats humains très très fréquemment aussi, quoi.
Mais avec les soldats humains, on peut se retourner contre eux, on peut dire voilà, ils ont fait preuve d'un mauvais jugement, on va remonter la chaîne de commandement, on va commencer à travailler un petit peu le truc au corps. Il y a des tribunaux de guerre.
Un, il faut que l'armée qui a commis le truc veuille le faire, ce qui n'est pas gagné. Enfin, je veux dire, on a des tas d'exemples où ça se passe comme ça. Puis deux, il faut que tu aies des preuves. Quand il y a l'avion qui a été abattu par les Russes au-dessus de l'Ukraine il y a quelques années, ben, il a fallu récupérer tous les débris de l'avion, les remonter, etc., pour montrer que c'était bien un missile, qu'on avait retrouvé des traces de ceci, cela. C'était un boulot énorme que tu ne peux pas faire dans un pays qui serait totalement en guerre, parce qu'aller récupérer les trucs, ça demande de pouvoir faire une opération, et quand t'es des gens qui essaient de te tuer en même temps, c'est pas évident. Et puis, en face, ben, les Russes, ils ont pris aucune sanction, ils ont toujours nié, parce que on s'en fout, c'est pas nous.
Mais par contre, tu penses que les militaires, quand même, n'auraient pas un problème à laisser faire complètement la machine, quitte à les exclure du choix et de la décision, de la prise de décision à l'instant. C'est-à-dire, je dois tuer quelqu'un, je dois tirer une bombe sur des individus. Tu penses que les militaires accepteraient que ce soit tout automatisé ?
Oui, je pense que oui, parce qu'en fait, ce serait pas tout automatisé dans le sens où on peut imaginer un système du type mon robot qui peut être volant, un truc qui roule ou quoi.
Logique.
Mais tu dis, voilà, tu as une carte, tu dis, bah, tu vas te promener dans telle zone, et puis si tu vois quelqu'un, tu lui tires dessus. Parce que je considère que mes troupes ne doivent pas être là, ou voilà.
Je crois que ça existe déjà dans la frontière de Corée du Nord, il y a des mitrailleuses automatiques, et que là-bas, les lapins ont appris à ne plus courir, parce qu'il ne fait pas bon de bouger dans la zone démilitarisée.
Oui. Voilà, mais dans les drones volants qui existent depuis des années maintenant, ils ont des systèmes de surveillance automatique, ce qui fait qu'ils peuvent avoir plusieurs drones qui tournent, et après qui vont alerter un opérateur. Donc après, je pense que les militaires, eux, sont dans une pure logique d'efficacité, où ils vont dire, bah, est-ce que mon système est efficace comme ça, ou est-ce que j'ai besoin de le piloter ? On l'a vu avec des tas d'affaires, la vidéo qui avait été fuitée par Manning et qui lui a valu de se retrouver en prison, bah, on voit une vidéo d'un pilote d'hélicoptère en Irak, je crois, et qui, à 4 km de distance, avec sa super caméra, voit des gens et des trucs louches, et qui dit, ils ont des armes. En fait, c'était un journaliste avec une caméra, et les chefs ont dit, bah vas-y. Et donc, il a tiré dans le tas. Et puis après, il y a une camionnette qui est arrivée pour porter secours aux gens. Et il a retiré dans le tas. Il y avait un gamin à bord. Enfin,
ça avait fait scandale,
un carnage, etc. Mais qui était caché par l'armée américaine. Et il a fallu que Bradley à l'époque, fasse fuiter la vidéo. Il était à l'époque donc analyste dans l'armée pour que cette affaire devienne publique.
On peut imaginer que ça l'avait choqué et que même si c'était des humains qui avaient pris la décision contrairement au robot tueur dont on parle, eh bien, c'était insupportable. Et ce truc-là, oui. Effectivement, il a bien fait de le sortir. C'est un,
oui, oui, mais il n'y a qu'un Manning pour des dizaines, voire des centaines de personnes. Je pense que les militaires, en fait, ça ne leur pose pas de problème. Leur seul problème, c'est est-ce que le système sera efficace, est-ce qu'il sera contrôlable. Aujourd'hui, on délègue déjà une partie. Quand le missile de croisière fait son suivi de terrain, etc., on lui a délégué déjà plein de choses. Et si le système automatique est fiable, voilà. Mmh. Et après, tu as cette question de la distance de l'ennemi. Et là, on sort de cette question de juste purement des questions de contrôle technologique. C'est qu'on sait que, aller tuer quelqu'un à coup de couteau. J'ai vu récemment une interview d'un soldat allemand de la Première Guerre mondiale qui a été faite, il y a, je suppose, 20-30 ans. Et où il explique la fois où il s'est battu à la baïonnette avec un Français qui l'a tué et qu'il en a été malade et que ça l'a hanté toute sa vie, etc. Il disait jusqu'à ce moment-là, il s'était toujours battu en tirant sur des mecs loin et donc ça lui avait pas fait cet effet-là.
Ça déshumanise de toute façon son action. Plus la personne est loin, moins elle existe.
Et c'est comme ça qu'on peut voir des conducteurs de chars israéliens, par exemple, qui il y a quelques années ont tué des gamins qui jouaient au foot sur une plage à 2 ou 3 km de distance.
Ça marche avec les pilotes de drones qui sont peut-être aux États-Unis, qui vont contrôler à distance, à des milliers de kilomètres, des drones qui vont tirer, va savoir sur quoi.
Et donc effectivement, si l'ordre même de tir ou la décision de reconnaître ça est une cible ou n'est pas une cible est encore mis plus à distance, du coup, on va avoir encore moins de réticence à faire la guerre. Et en plus de ça, pour les pays riches, et notamment les États-Unis, où le fait d'avoir des morts, ça passe quand même assez mal. Mais du coup aussi, on va moins hésiter à utiliser la guerre en disant, on va envoyer des robots, et tant qu'on a les sous, nous, on s'en fout, quoi. On parle de pays d'armée et de trucs high-tech, mais les technologies se démocratisent aussi. Il y a plein de logiciels qui aujourd'hui notamment permettent de faire des pilotes automatiques pour
des petits drones commerciaux.
Ou de l'aéromodélisme, etc. On pourrait tout à fait imaginer de coupler ça avec un système de reconnaissance faciale qui se trouve également et qui commence à arriver d'ici 10 ans, ce sera très très courant.
En logiciel libre.
En logiciel libre. Et imaginez qu'on puisse faire des actions terroristes en disant que je mets mon drone avec la reconnaissance faciale d'un ministre, par exemple, et au moment où il passe dans le lieu public où je sais une semaine à l'avance qu'il va passer, le truc se déclenche et
ça fait détonner dessus, une grenade ou un truc dans le genre. Oui.
Voilà. Et ça, c'est aussi une des inquiétudes que j'avais vues par rapport aux gens qui sont contre ces systèmes-là, de dire, en fait, on va aussi avoir ce risque de prolifération, également en mode low-tech.
Et ça, effectivement, une fois que la technologie va être connue, va être utilisée un peu partout, c'est le risque qui va aller avec. Les terroristes s'emparent un peu de tout ce qui leur tombe sous la main. Ils sont opportunistes de ce genre.
Alors, ils ont déjà commencé à utiliser des drones pilotés, des drones du commerce pilotés. Ça se fait déjà. Oui.
Alors, on peut supposer que l'armée va peut-être avoir des réticences sur un autre point. C'est le risque que les machines, les robots tueurs qui seraient envoyés, qu'on en perde le contrôle, qu'ils soient hackés, ou même qu'un soldat ou un décisionnaire de l'armée ami deviennent fous, pètent un câble, ça arrive dans toutes les armées, il y a des gens de temps en temps qui peuvent péter un câble. Et si les robots tueurs sont automatiques, sont très automatisés et qui sont nombreux, ça pourrait potentiellement se retourner contre l'armée qui les a envoyés à l'origine.
Moi, je pense que c'est un faux problème parce que les militaires vont vouloir un système efficace, donc c'est un système qu'ils vont surveiller de très près, qui va être toujours avec quelqu'un qui va le vérifier, qui va...
En théorie.
Qui va vérifier est-ce que ça marche, est-ce qu'on est au bon endroit, est-ce qu'on tue bien des gens, etc., etc.
Mais justement, d'autant plus, ils auraient intérêt à garder la décision sur ce principe-là.
Oui, après, c'est toute la question du... Est-ce que jusqu'où tu vas dans le management. Mais en fait, je pense que comme c'est des systèmes qui coûtent quand même cher, ça va être très contrôlé avec des agents qui vont voir comment ça se passe. Et donc, moi, j'ai du mal à croire à avoir une personne qui puisse prendre le contrôle d'une armée complète de robots, quoi.
Ou alors, vraiment, c'est Mr. Robot, c'est un intello de première, un hacker incroyable. Ou alors, l'armée secrète de hackers de Corée du Nord.
Oui, mais là, on retourne dans le scénario Terminator, quoi.
Alors, pour revenir à la réalité, le traité qui a été proposé pour interdire ces robots tueurs, c'est-à-dire des machines autonomes capables de décider par elles-mêmes de tuer des humains, ce traité, vraisemblablement, il n'a pas de chance d'aboutir. Parce qu'on sait, les grands acteurs des armées modernes n'aiment pas qu'on les empêche de faire ce qu'ils veulent.
Il suffit qu'il y en ait un qui décide de pas signer pour que les autres ne signent pas, puisqu'on ne veut pas se retrouver moins armé que l'adversaire. Et tu prends les États-Unis, la Chine, la Russie. La chance que les trois se disent « Ah oui, on va signer ce truc parce que c'est important de ne pas faire la guerre » est quand même très faible. Enfin, moi, je ne suis pas très, très optimiste.
Alors, ça n'empêche, c'est un sujet qu'il faut garder à l'esprit et c'est un sujet dont on peut débattre régulièrement. Est-ce que l'humain doit encore intervenir même pour enlever la vie d'un être humain? C'est moche, mais c'est le jeu de la guerre. Et donc, il faut essayer de garder les mains dedans et savoir le coût et savoir le contrôler autant que possible.
Très bien. En tout cas, nous deux, on va faire la paix jusqu'à la semaine prochaine.
Pas de robot tueur à la maison.
Et à bientôt. Salut.
À la semaine prochaine.